Alors, c'est bien méditer un peu sur cette fête patronale du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. D'abord, je trouve c'est bien de resituer ce qu'est une fête patronale. La fête patronale dit quelque chose du charisme de la communauté. Et je trouve que c'est à partir de ça aussi qu'on peut partir. Cœur immaculé, Marie, refuge des pécheurs, ça a à voir avec la compassion, ça a à voir avec la confiance, ça a à voir aussi avec la nouveauté, le commencement. Hein, et j'aimerais peut-être commencer à te dire que donc de dire cette fête patronale, de la mettre dans cette dimension-là. De même aussi, je me dis, tiens, que une paroisse qui est sous le patronage, on dit, d'un saint, ben, ça dit quelque chose de la paroisse, ça dit quelque chose de sa vocation et de sa mission. Donc c'est pas juste parce qu'il faut une date et que Père Lamy a choisi cette date, donc ça a été rappelé avec Notre-Dame des Victoires, l'abbé Desgenais qui désespérait, etc. Il savait sa paroisse se vider, et puis finalement il a confié sa paroisse au cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu un renouveau, etc. Et je me dis, tiens, au fond, cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, est-ce que ça n'a pas à voir aussi avec le fait de protéger les commencements? Protéger les commencements. Parce que Immaculée Conception, la conception, on le sait très bien, c'est le commencement. Et donc, le Seigneur, au fond, quand il veut faire quelque chose de neuf, il protège les commencements. Et on le voit dans l'Évangile, hein, qu'on a lu à la messe. Hein, donc, justement, cet appel fait à Joseph, voilà. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Donc, tout cela est arrivé, soit accompli par la parole du Seigneur. La Vierge concevra et Dieu est avec nous. Je trouve c'est intéressant de dire que des commencements dans une vie, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de commencements. Il y a beaucoup de commencements. Bon, le commencement d'une congrégation, et on voit bien notre cher Père Lamy était bien embarrassé, renaclé, pour ainsi dire, à se lancer dans cette fondation, et donc s'est confié à la Vierge Marie sous cette vocation-là particulière de cœur immaculé. Mais des commencements, il y en a beaucoup dans une vie quotidienne. Il y a le commencement, le fait de naître. Mais aussi le commencement d'un couple, le commencement de la vie professionnelle, les commencements dans une mission. Je me dis, tiens, moi ça m'a inspiré dans ce sens-là, je me dis, tiens, est-ce que la vocation de la congrégation, en tout cas un des aspects, ne serait pas de protéger les commencements, de protéger les commencements de la vie chrétienne chez ceux qui viennent frapper à notre porte, que ce soit des retraitants, que ce soit vous qui faites partie de notre famille spirituelle, etc., de dire, tiens, on est serviteur des commencements de l'action de l'Esprit-Saint dans la vie de ceux qui viennent frapper à notre porte, parce que nous-mêmes aussi, on a pris soin de nous. Hein, la Vierge Marie a pris soin de nous dans nos commencements de vie religieuse. Hein, et puis on peut dire aussi que la congrégation est encore en ses débuts. Restons très modestes. Hein, donc, quand on voit des congrégations qui ont plusieurs siècles d'existence, etc., à commencer par nos chers frères cisterciens, voilà, donc on est encore dans le bac à sable, pour ainsi dire. Donc, mais ça ne doit pas nous faire peur. Ça ne doit pas nous faire peur parce que, précisément, c'est là où le Seigneur nous veut, c'est là où le Seigneur veut que nous soyons dans une attitude de confiance et une attitude d'abandon et au fond de remise de nous-mêmes dans les mains du Seigneur. Donc, ça m'a inspiré, ça, ces questions. Et nous pourrions, chacun pour sa part, pourrait méditer là-dessus. Quels sont les commencements que je demande à la Vierge Marie de venir protéger dans ma vie? C'est quoi aujourd'hui On peut avoir 80 ans et être dans les commencements. C'est pas une question d'âge, vous comprenez bien. Hein, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que Immaculée Conception, c'est une nouveauté. Évidemment, c'est inégalé. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Hein, quelqu'un qui, une nouveauté dans la succession depuis le péché originel de souffrance, etc. Une nouveauté qui est protégée de la faute originelle, qui nous donne une espérance. Alors, je trouve c'est bien d'être attentif à ça, vous qui êtes aussi en charge d'autres, vous êtes pour un certain nombre d'entre vous, parents, voire grands-parents, et nous comme frères, comment on peut aider à faire advenir ce qui est encore en germe? À faire advenir la vie, parce que l'Immaculée Conception, c'est vraiment la vie, être serviteur de la vie divine dans le cœur de ceux qui frappent à notre porte, que ce soit comme laïc, que ce soit comme religieux. Voilà, je trouve que cette fête-là de cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, c'est vraiment être serviteur de la vie de Dieu chez l'autre. D'être attentif déjà en nous, en quoi on a besoin aussi d'être protégé, parce que cette vie divine en nous, elle a besoin d'être protégée, elle est attaquée. On sait très bien, le démon est là aussi pour nous décourager, etc. etc. Donc, comme il a aussi découragé le père Lamy, comme il a découragé l'abbé Desgenais en son temps, etc., et peut-être aussi dans notre temps, chaque temps, c'est des temps à la fois de découragement et à la fois de renouveau. C'est intéressant parce qu'on ne mettrait pas les deux ensemble, à la fois le découragement et le renouveau. C'est-à-dire que le découragement, on dit oui, mais les jeunes, voilà, ils sont plus, on voit, nos paroisses sont fragiles. Tout est très fragile dans notre Église, hein, à commencer par notre communauté, qui est une communauté fragile. Hein, qu'on voit la réalité de nos vies paroissiales, c'est des réalités fragiles. Mais ce n'est pas parce que c'est fragile qu'il n'y a pas une promesse. Ce n'est pas parce que c'est fragile qu'il n'y a pas une grâce qui est donnée. Précisément, lorsqu'on contemple Marie dans son Immaculée Conception, alors qu'il y avait un enchaînement de souffrances depuis le péché originel, eh bien Dieu a fait advenir une nouveauté, a fait advenir quelque chose de neuf, a fait advenir au fond le salut. Le salut, c'est toujours une nouveauté. C'est quelque chose de neuf. Donc, je trouve ça intéressant, c'est dans l'Évangile, justement. J'ai Joseph et son époux, un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement. On se décida de la renvoyer en secret. Voilà, comme il a Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Il y a une annonciation à Joseph, hein, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai, disons-le, on le dit entre nous, c'est quand même pas intuitif que votre fiancée, sans avoir partagé la vie commune, se retrouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est pas vraiment intuitif. Donc du coup, on peut comprendre notre cher Joseph, qui a des doutes, etc., mais il a une annonciation. Ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire d'être attentif à la vie intérieure, d'être attentif aux motions du Saint-Esprit. Hein, Joseph, voilà, il a une annonciation, il y a quelque chose en lui qu'il reçoit, alors que c'est complètement contre-intuitif, voilà, sans avoir vécu ensemble, de tomber enceinte, etc. Voilà. Il reçoit quelque chose, une motion du Saint-Esprit, et donc je trouve que le salut arrive justement quand on est attentif à l'action du Saint-Esprit en nous. Hein, l'Esprit Saint, voilà, c'est la couverte de son ombre, voilà, donc, et c'est ça le salut, c'est vraiment être dans cette dimension d'intériorité, de donner la place à l'intériorité, de donner peut-être aussi la place à la vie contemplative en nous, hein, j'aime bien cette phrase du père Lamy, hein, laissez-vous aller au silence, hein, et écoutez l'hôte intérieur qui habite en vous. Nous sommes habités. Hein, le chrétien, c'est une personne qui est habitée, hein, qui est habité par une présence. Et il ne faut pas oublier que tout est fait dans notre société pour, au contraire, avoir des forces centrifuges qui nous emmènent loin de l'intériorité, qui nous emmènent vers l'extérieur. Hein. Cette force centrifuge qui fait qu'on ne prête pas attention hein, à la dimension contemplative de nos vies, à la dimension de la présence du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous redonne la confiance, c'est que le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est Marie, refuge des pécheurs. Quoi que soit ta vie aujourd'hui, quoi que tu aies pu faire dans ta vie, tu es accompagné, tu es plus qu'accompagné, tu es habité. Hein, on parle, vous savez, dans le baptême, on parle de, c'est un mot un peu compliqué, de l'inhabitation de la Trinité en nous. Hein. Nous sommes habités par une présence, le chrétien. C'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. C'est ça le chrétien. Je porte en moi-même plus que moi-même. Et Marie, vraiment, est celle, évidemment, qui porte en elle-même plus qu'elle-même, par définition, hein, puisqu'elle est la mère du Sauveur. Donc, je trouve que c'est choisir l'intériorité, choisir la vie contemplative, c'est un combat, et j'aime bien cette phrase de Bernanos qui dit, la société moderne est une lutte permanente contre toute forme d'intériorité. Une lutte permanente contre toute forme d'intériorité. Notre société nous pousse au contraire à ne pas être attentif à ce qui se passe en nous, attentif aux motions du Saint-Esprit. Donc, juste pour vous dire, c'est intéressant de voir cette fête-là, de dire, et notre vocation comme personnellement et puis comme communauté, d'aider à la vie intérieure des personnes qui viennent frapper à notre porte. Hein, c'est ça. Je dis ça parce que parfois, comment vous dire, on a trop mis le christianisme sous l'angle d'une morale. Alors bien sûr, faire le bien, éviter le mal, ça fait partie de. Mais c'est d'abord une présence. C'est d'abord la rencontre avec une présence. Hein, c'est ça le Christ. L'Église s'étend, se répand. Justement parce que cette présence-là se diffuse. Et donc, si je suis attentif à cette présence du Saint-Esprit en moi, si je suis attentif au fait que je suis aussi habité par, par le Saint-Esprit, eh bien, il y a quelque chose du royaume de Dieu qui va se répandre autour de moi. Et voilà. Donc, c'est intéressant de travailler là-dessus, de dire les commencements, la nouveauté, l'humilité, parce que savoir avec l'humilité, prendre soin des commencements, savoir avec l'humilité, parce qu'on est vraiment serviteur. Hein, on est serviteur, hein, et nous qui portons le beau nom de serviteur de Jésus et de Marie, c'est vraiment ça, c'est être dans une attitude d'écoute, de ce qui se passe dans à la fois mon propre cœur et dans le cœur de l'autre, et puis de miséricorde, parce que la miséricorde, précisément, hein, est au cœur du charisme des serviteurs de Jésus et de Marie, hein, parce que la miséricorde, elle nous permet de redémarrer, elle nous permet un nouveau commencement, hein, elle nous permet un nouveau commencement, elle nous permet de nous relancer là où parfois on était découragé. Bon, parfois on se décourage de soi-même. C'est plus fréquent. Hein. On se décourage de soi-même. Ah, j'ai encore fait ceci, encore fait cela. Voilà. Justement, la miséricorde, c'est ce qui permet de se relancer dans la foi et de se relancer dans la confiance en Dieu et notre communauté, modestement. En prenant ce patronage, le Père l'ami, en nous donnant ce patronage-là du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, il nous dit, soyez attentifs à quel que soit l'état dans lequel se trouve la personne avec qui vous avez contact, l'état de son âme, bien, prenez conscience que la miséricorde va lui permettre de rebondir et va lui donner de redonner confiance dans sa présence. Voilà, donc je trouve l'évangile, c'est vraiment qu'on a lu à vraiment, c'est vraiment cette annonciation faite à Joseph, elle est très importante. Sans Joseph, sans ça, vous savez que une femme enceinte hors mariage au temps biblique, ça ne plaisantait pas du tout. Elle était lapidée devant la porte de la maison de ses parents. C'est-à-dire que Joseph, il a vraiment donné la vie à Jésus en permettant à Marie, en assumant aussi cette paternité. La personne de Joseph, elle est, parce qu'il est un homme intérieur, il donne la vie. Il permet la vie divine. Et la vie humaine, concrètement, la vie humaine, puisque Marie n'aurait pas survécu si Joseph n'avait pas été attentif à cet appel, à cette annonciation, ce qui vient en elle est de l'Esprit-Saint. Et puis, méditer sur le livre de la sagesse. Là, la première, « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout ». Rien que cette phrase-là, elle est vraiment extraordinaire. « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Hein » Au fond, la toute-puissance, c'est une miséricorde. « Tu as pitié de tous les hommes, tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. » Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit « Tiens, ça m'a fait penser à Jésus sur la croix. » qui ferme les yeux au moment de sa mort hein, sur les péchés et au centurion au pied de la croix, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. C'est-à-dire, on fait le lien, en tout cas je fais le lien entre fermer les yeux sur le péché et rendre possible une conversion, rendre possible un renouveau. Vous voyez, donc je trouve que c'est intéressant d'être attentif à ça comme serviteur de Jésus et de Marie et comme étant disciple du Seigneur, que la toute-puissance, à la manière de Dieu, c'est une compassion pour la fragilité humaine. C'est ça, là. Et c'est très différent de la manière dont la société vit la société vit la fragilité humaine comme une menace. Que ce soit au début de la vie, hein, là maintenant on voit dans la fin de vie, tout ce qui est autour de la fin de vie, etc., voit la fragilité humaine comme une menace. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Voilà. Au contraire, la toute-puissance divine voit la fragilité humaine, parce que on est fait de creux et de bosses, on est fait de... C'est ça, mais voit comme au contraire un lieu de rencontre, un lieu de renouveau. Un lieu où, au fond, cette fragilité humaine, loin d'être une menace, elle nous permet, au contraire, de nous remettre au Seigneur. Et tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Voilà, c'est parce que je suis dans une attitude de confiance, parce que je suis dans cette attitude de remise de moi-même au Seigneur, eh bien j'ai une nouvelle chance. Il y a toujours une deuxième possibilité, il y a toujours une autre manière d'agir, il y a toujours une manière où le Seigneur va nous appeler à, quelles que soient les réalités que nous avons vécues, quels que soient nos péchés, etc., eh bien, le fait de se remettre dans le cœur de Marie, le fait de se remettre dans cette attitude de renouveau, ça va nous donner une autre manière de vivre, et ça va nous donner une nouvelle chance, voilà, d'avancer dans la vie. Nous ne sommes pas uniquement le fruit de nos péchés. Ça, c'est absolument clair. Nous ne sommes pas uniquement le fruit de nos péchés. Certes, nos péchés ont des conséquences sur nous, mais ce n'est pas ça qui résume la personne humaine. Hein, c'est au contraire, c'est nous sommes le fruit d'une miséricorde, hein, tu as pitié de tous les hommes, cette miséricorde qui manifeste la toute-puissance de Dieu. Toi, il y a une prière de collecte là. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Ça, c'est ça. Mais c'est tout à fait au rebours de notre société, tout à fait au rebours. Mais il ne faut pas s'en inquiéter. Hein. Donc je pense que la toute-puissance d'amour de Dieu, il patiente et prend pitié. Qu'est-ce que nous faisons du pouvoir qui est en notre possession de la... Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, justement, on s'en sert pour exercer notre patience et exercer notre miséricorde? On a tous une partie de pouvoir, ne serait-ce que sur nous-mêmes. Et avoir de la miséricorde envers soi-même n'est pas forcément le plus simple. Lorsque tu patientes, voilà, patiente et prends pitié. Voilà. Et c'est pour ça que le pouvoir, dans une dimension évangélique, c'est un service. C'est d'abord être au service de la patience, c'est-à-dire laisser le temps d'eux et au service de la miséricorde. C'est pas, voilà, j'ai le pouvoir, je vais te montrer que moi, c'est moi le chef. Oui, je trouve que Cœur Immaculé de Marie, refuge des pécheurs, c'est vraiment rentrer comme dans la dimension de serviteur. Rentrer dans la dimension de serviteur. Et c'est là la conversion. Parce qu'en nous, on a toujours la toute-puissance. Bien sûr que oui. Avoir le dernier mot, faire que ma manière de voir les choses, d'organiser les choses, soit la manière aussi. Tout ça, c'est en nous. Donc, d'où le combat spirituel. Vous voyez, le fait de choisir Marie, c'est choisir un combat spirituel. Choisir, justement, pour lutter contre la toute-puissance. La toute-puissance, il y a trois grandes formes de toute-puissance. Vous vous rappelez, dans Jésus au désert, les tentations au désert, etc. Donc, voilà, c'est la toute-puissance... De tout ce qui a à voir avec les plaisirs charnels, la toute-puissance de tout ce qui a à voir avec les biens matériels, et la toute-puissance qui est la plus démoniaque, la toute-puissance spirituelle. Jette-toi, va sur le pinacle du temple, jette-toi d'ici en bas, et il est dit, voilà, les anges te porteront sur leurs mains. C'est-à-dire le démon, qui connaît très bien sa parole de Dieu, tente avec la parole. Il y a des lectures démoniaques de la parole de Dieu. Ça, c'est une lecture démoniaque de la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu pour tenter le Seigneur. Et puis le Seigneur lui répond avec la parole de Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, ces trois formes de toute-puissance, précisément, c'est trois manières de se mettre au-dessus de Dieu, quoi, de trois manières. Et c'est en nous. Il n'y a rien à faire, c'est en nous. Et donc, tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Voilà. Le Seigneur dit, ta vie ne se résume pas à tes échecs de conversion, à ces formes de tout. C'est pas ça ta vie. Convertir, vous savez ce que ça veut dire, c'est se tourner vers. Hein, ça, convertir, on se tourne vers. Voilà. Le Seigneur, il voit d'abord notre désir de nous tourner vers lui. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Ça, c'est magnifique. C'est le Seigneur, on est dans le livre de la sagesse, hein, donc tu n'as répulsion pour aucune de tes œuvres. Être disciple du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, je trouve que c'est une belle définition de n'avoir aucune répulsion pour les œuvres de Dieu. À commencer, aucune répulsion pour des personnes. Et là aussi, il y a quelque chose à travailler en nous, hein, de dire, est-ce qu'il y a des personnes que l'on... C'est intéressant de voir Jésus, autant sur les questions, j'allais dire, de mœurs, la femme adultère, etc., bon, va et ne pêche plus, il voit la fragilité humaine, ça, mais sur les questions de dureté de cœur, là, il est intraitable. Intraitable. Tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Et donc, cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, c'est revisiter nos duretés de cœur. C'est revisiter ce qui, en nous, justement, on associe une personne à une répulsion. À quelque chose qui nous agace, à quelque chose qui... Ça peut aller de l'agacement, qui est la forme la plus habituelle, etc., mais qui est aussi une répulsion, c'est-à-dire de rejeter, quoi. Jusqu'à, bon, encore plus à la haine, etc., bon, on n'en est pas là. Et je trouve ça intéressant, les personnes, par exemple, qui nous ont fait souffrir, puisqu'on passe de miséricorde, on parle aussi de l'impact du mal en nous, les personnes qui nous ont fait souffrir, il y a deux critères, à mon avis, qui montrent qu'on a pardonné. C'est se réjouir du bien que la personne reçoit. Si la personne qui m'a fait souffrir gagne l'auto, eh bien je me réjouis pour elle et je m'attriste au contraire du mal qui frappe cette personne. Imaginons, cette personne qui m'a fait souffrir, eh bien, est atteinte d'un cancer. Je ne vais pas dire, ah ben enfin, il y a une justice dans ce monde. Parce que là, à mon avis, tout n'a pas été pardonné. On a encore du boulot. Vous voyez, donc, c'est intéressant de dire, savoir avec le pardon. Oui, la misère, évidemment. Donc, de répulsion, tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Est-ce qu'il y a des pardons qui n'ont pas été encore donnés? Est-ce qu'il y a des... Vous faites bien la différence, hein, entre pardon et réconciliation, c'est pas pareil. Il peut y avoir pardon sans réconciliation. Le pardon, c'est une attitude personnelle. Bon, je n'ai de répulsion pour aucune de tes œuvres, c'est personnellement. La réconciliation, il faut être deux. Il faut que quelqu'un se reconnaisse agresseur et quelqu'un se reconnaisse comme victime. Mais parfois, il y a des personnes qui jamais se reconnaîtront comme agresseurs. Comme, non, c'est au contraire, c'est de ta faute. Va culpabiliser la victime. Donc, c'est pas pareil. Mais donc, le pardon est toujours possible. La réconciliation n'est pas toujours possible. Et je trouve ça intéressant de dire que les actes de pardon que nous posons sont les signes avant-coureurs d'une réconciliation où Dieu sera tout en tous. Mais c'est des réalités modestes, ces actes de pardon. Vous voyez, les actes de pardon qu'on pose, c'est redonner une chance à la communion. Intérieurement, redonner une chance à ce que je ne sois pas dans une répulsion de l'autre. Et comment, alors, ça continue dans le livre de la sagesse, et comment aurait-il conservé l'existence si tu ne l'y avais pas appelé? Voilà. Le premier appel, c'est l'appel à vivre. Et l'appel à vivre, c'est non seulement l'appel à vivre quand on sort du sein de sa mère, mais c'est choisir la vie. Hein, vous vous rappelez, en Deutéronome 6, hein, « Je mets devant toi la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie, choisis la vie. » Et être disciple du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, c'est être disciple de la vie, c'est choisir la vie. C'est choisir que cette vie-là, elle puisse porter du fruit. C'est ça la vraie question au fond de nos existences. C'est je me dis, tiens, c'est la fécondité de nos vies. C'est quoi la fécondité de nos vies? Apporter du fruit et un fruit qui demeure. Bien, c'est précisément savoir avec ça, hein. Savoir avec ce choix d'être des vivants. Ce choix d'être des vivants. Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Cœur immaculé de Marie, refuge des vivants. Et en nous, on sait qu'il y a des forces de mort. Il y a des attitudes mortifères, bien sûr, on le sait. Mais justement, parce qu'on l'invoque comme celle qui est le refuge des vivants, eh bien, elle nous permet de redonner vie autour de nous, mais aussi de redonner vie à ce qui, en nous, aurait pu être mortifère. Vous voyez? C'est intéressant de dire, tiens, on redonne vie, Et c'est pour ça que c'est une très belle vocation que notre vocation de disciple du cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, parce que c'est être disciple des vivants. C'est redonner vie, c'est faire que cette vie-là, en fait, c'est une dimension pascale, hein, ce qu'on appelle pascal, du mystère pascal. Hein, choisir la vie, c'est passer de la mort à la vie, qui est le mystère pascal. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'être attentif à ça, de dire, tiens, en nous, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore comme quelque chose qui n'est pas clair ou des aspects mortifères qui seraient encore en nous et ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Hein, c'est pas de Dieu. Quoi. Et comment aurait-il conservé l'existence si tu n'avais pas appelé? C'est pas de Dieu. Hein, donc, il y a quelque chose à dénoncer, justement, ces aspects mortifères. Hein, donc, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. Voilà. Ça fait partie de cette vocation aussi en nous. Cet amour que le Seigneur nous porte, hein, cet amour qui nous permet d'être des vivants et qui nous permet de donner la vie autour de nous. Hein, alors qu'on voit bien qu'il y a des forces de mort qui sont à l'œuvre. Ça, c'est évident. Dans notre société, il y a des forces de mort qui sont à l'œuvre. Et puis en nous-mêmes, d'être attentif aussi à ce qui pourrait aussi nous tirer vers le bas, nous décourager, nous un peu comme la BD Genette, puis le Père Lamy, etc. Puis nous aussi, il y aurait beaucoup de sujets de découragement hein, dans la vie de chacun, dans notre vie de communauté, par exemple aussi, mais dans vos vies personnelles, il y aurait peut-être beaucoup de sujets de découragement. Eh bien, c'est pas ce que dit là le Seigneur. Hein, le Seigneur, tu dis, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, maître qui aime la vie, toi dont le souffle impérissable, le souffle, on pense bien sûr au Saint-Esprit, hein, anime tous les êtres. Et pour terminer, c'est ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et qu'ils puissent croire en toi, Seigneur. Donc, ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. C'est intéressant de voir comment, dans nos circonstances de vie, il y a une forme de correction fraternelle du Seigneur, justement, qui nous reprend pour que nous puissions nous détourner du mal et croire en toi. Donc, il y a des avertissements, il y a des warnings. Il y a des warnings que le Seigneur nous envoie. Alors, je crois que c'est à travers cette parole du livre de la sagesse, à travers l'évangile, et on aurait pu méditer sur la lettre de saint Paul, hein, mais je me dis, tiens, il y a quelque chose du charisme de notre communauté et de votre charisme personnel, puisque vous êtes attaché aussi à la communauté, vous avez une affection particulière pour la communauté, qui fait que, en fait, on se sent gardien l'un de l'autre. Hein, on se sent. Hein, suis-je le. Vous vous rappelez, hein, mais suis-je le gardien de mon frère, hein, Cain et Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien oui, il détourne du mal. Et puisse croire en toi, voilà. Tu les reprends peu à peu et tu les avertis. Oui, tu es gardien de ton frère. Et ne pas se sentir gardien des uns des autres, c'est mortifère. Et de fait, Cain et Abel, on sait comment ça s'est terminé. Hein. Il n'était pas gardien de son frère. Suis-je le gardien de mon frère? Alors, on va demander cette grâce particulière à la Vierge Marie. Et puis de nous remettre sous sa protection et de reprendre conscience de vraiment du grand cadeau qui nous a été fait à notre communauté et à l'Église, parce que bon, c'est à toute l'Église évidemment, hein, de ce patronage qui dit quelque chose de notre charisme et qu'on puisse nous-mêmes aussi devenir des témoins. Des témoins, parce que la miséricorde de Dieu est combattue et elle a besoin de témoins pour la rendre visible, pour lui permettre d'advenir. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, des apports, des témoignages. Vas-y, Dominique.
Quand vous parlez de Saint-Joseph, qui aurait pu, Marie aurait pu mourir.
Oui.
Est-ce que Dieu aurait eu ce plan? Est-ce que Dieu le voit vraiment en avant?
Oui. Faire comme Marie était libre de dire non à la. Il n'y a pas de sainteté sans liberté. Donc. Oui, alors c'est. C'est toujours la question de la liberté et la grâce et la nature, mais potentiellement, Joseph, il a eu cette annonciation qui a permis, au fond, qu'il soit vraiment père, qu'il soit vraiment lui aussi source de vie. Alors. Est-ce que rien n'est dit du combat intérieur de Joseph? Donc, rien n'est dit de son combat intérieur, mais potentiellement, alors on imagine qu'il s'est adressé à des personnes bien disposées, en choisissant évidemment Marie et Joseph, mais c'est important de dire, tiens, s'il avait dit non, on va l'exclure parce qu'on... C'est un homme juste, c'est ce qui nous est dit dans l'Écriture. Donc, et s'il avait dit non, qu'est-ce qui se serait passé? Il n'y aurait pas eu de salut, il n'y aurait pas eu de... D'où être attentif aux motions intérieures du Saint-Esprit. Parce que nous embarquons dans ces motions du Saint-Esprit d'autres. D'autres sont embarqués, comme dans... L'accueil que Joseph a eu de cette annonciation, d'autres sont embarqués. Notre vie spirituelle, ce n'est pas une vie personnelle et portative. Simplement pour moi, mon bien-être, etc. D'autres sont embarqués. Dans le oui que l'on dit aux motions du Saint-Esprit en nous, aux appels qu'on reçoit, comme dans le non que l'on dit, eh bien ça a des conséquences.